Nous ne reviendrons jamais à Manderley. Le passé est trop près de nous. Mais parfois, en rêve, je retourne à Manderley. Notre Manderley, secret et silencieux, tel qu'il l'avait toujours été. Je revois la maison, sa pierre grise luisant sous la clarté lunaire de mon rêve. La terrasse descend en pente douce vers la pelouse, et la pelouse court vers la mer, telle une grande feuille d'argent étalée sous la lune. Les fenêtres sont éclairées, les rideaux flottent légèrement dans l'air du soir, et là, dans la bibliothèque, la porte est entrouverte comme si nous l'avions laissée ainsi. Mon mouchoir traîne sur la table, non loin du vase de roses d'automne. Et les braises mourantes dans notre cheminée rougeoient encore, malgré l'approche du matin.
Rebecca, de Daphné du Maurier, d'après l'adaptation d'Howard Cook pour l'émission d'Orson Welles, avec l'Orchestre National de France. Musique originale et direction d'orchestre, Didier Benetti. Réalisation, Cédric Ossia.
Je me demande quelle serait ma vie aujourd'hui si Madame Von Hopper n'avait pas été si snob.
Manderley, Manderley, voyons. Même vous, vous avez forcément entendu parler de Manderley. C'est Max de Winter, le propriétaire de Manderley, là à la table derrière nous. Il a l'air malade, non ? On dit qu'il n'arrive pas à se remettre de la mort de sa femme. Une horrible tragédie. On dit qu'il n'y fait jamais allusion et qu'il ne prononce jamais son prénom. Elle s'est noyée, vous savez, dans une baie près de Manderley.
Madame Von Hopper, je suis sûre qu'il vous entend.
Mais ne dites pas de bêtises. Montez vite dans ma chambre et rapportez-moi la lettre de mon neveu. Vous savez, c'est où il décrit son voyage de noces avec les photos.
Mais
faites ce qu'on vous dit, ne discutez pas. Allez, allez, vite.
Lorsque je redescendis, elle l'avait fait asseoir auprès d'elle sur le sofa. Il semblait appartenir à une autre époque, lointaine et reculée, où les hommes déambulaient la nuit, enveloppés dans des capes, une époque d'escaliers exigus et de sombres donjons.
Ah, vous voici. Je vous présente Monsieur de Winter. Monsieur de Winter prend le café avec nous.
Enchanté.
Enchanté.
Vous savez, Monsieur de Winter, je vous ai reconnu. Dès que vous êtes entré dans le restaurant, je me suis dit, tiens, mais c'est Monsieur de Winter, l'ami de Billy. Il faut absolument que je lui montre les photos de la lune de miel de Billy et de sa femme. Il l'a rencontré à cette réception, celle où je vous ai rencontré vous-même au Claridge de Londres. Mais je suis sûre que vous avez complètement oublié la vieille dame que je suis.
Au contraire, je me souviens très bien de vous.
J'ai entendu dire que Manderley sortait d'un conte de fées. Il n'y a pas d'autre mot. On dit que la galerie des musiciens à Manderley, avec ses tableaux de valeur, est un joyau et que les jardins sont tout bonnement les plus parfaits du monde.
Que pensez-vous de Monte Carlo, mademoiselle ?
C'est un peu artificiel, mais...
Elle est trop gâtée, Monsieur de Winter. C'est ça le problème avec elle. La plupart des jeunes femmes se damneraient pour avoir la chance de voir monter. Mais vous, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous n'êtes pas un habitué.
Je ne sais pas trop. Je suis parti un peu précipitamment.
J'imagine que vous devez regretter les brumes de Manderley. C'est quand même autre chose. Ça doit être une splendeur au printemps.
Oui. Manderley était de toute beauté.
Le lendemain matin, Madame Von Hopper se réveillait avec de la fièvre et un mal de gorge. J'appelai son médecin, qui diagnostiqua la grippe et lui recommanda de garder le lit pour une quinzaine de jours. À midi, je descendis seule au restaurant de l'hôtel. Je m'attendais à trouver la salle vide, personne d'habitude n'y déjeunait avant une heure. Elle l'était, en effet, à l'exception de la table voisine de la nôtre. Je le croyais parti. Sans doute déjeunait-il tôt dans l'espoir de nous éviter. Je n'étais pas armée pour une situation pareille. Je ne pouvais pas faire demi-tour. J'aurais voulu être plus âgée, différente. Je m'assis à notre table, regardant droit devant moi, mais en dépliant ma serviette, je renversai le vase de fleurs posé sur la table.
Ah ! Vous ne pouvez pas déjeuner sur cette nappe mouillée. Allons, levez-vous. Garçon, vous rajouterez un couvert.
Oh non, non.
Mademoiselle, déjeune avec moi.
Non, vous n'y pensez pas.
Et pourquoi pas?
Ne vous sentez pas obligé d'être poli, c'est très gentil à vous, mais tout ira bien.
Je ne me sens pas obligé. Je voudrais que vous déjeuniez avec moi. Venez vous asseoir. Et votre amie, elle est beaucoup plus âgée que vous. Est-ce une parente?
Ce n'est pas vraiment une amie, elle m'emploie. Je suis ce qu'on appelle une demoiselle de compagnie. Elle me paie 90 livres par an.
Je ne savais pas que la compagnie pouvait s'acheter. Pourquoi faites-vous cela?
Oh, 90 livres, c'est beaucoup d'argent pour moi.
Vous n'avez pas de famille?
Non, mes parents sont morts.
Vous savez, nous avons quelque chose en commun, vous et moi. Nous sommes tous deux seuls au monde. J'ai bien une sœur, mais je ne la vois pas souvent et elle ne me tient pas compagnie. Il faut que je félicite Madame Van Hopper. 90 livres par an, vous n'êtes pas cher du tout.
Vous oubliez un détail. Vous avez une maison, pas moi.
On peut se sentir aussi seul dans une maison vide que dans un hôtel bondé. L'ambiance, malheureusement, y est moins impersonnelle.
J'ai oublié bien des choses de Monte Carlo. Mais je n'ai pas oublié la douceur des sièges en cuir de sa voiture lors de nos excursions matinales où nous longions les côtes de la Méditerranée. Je me rappelle encore mon tailleur de flanelle mal coupée et ma jupe plus usée que la veste. Je me souviens de la façon dont je m'étais dit un jour, en regardant ma montre, cet instant précis, maintenant, à 11h20, cet instant ne doit jamais se perdre, jamais. J'avais fermé les yeux pour mieux m'imprégner de cette sensation.
Quelle compagnie silencieuse vous faites! À quoi pensez-vous?
J'aimerais conserver cet instant et ne jamais l'oublier.
Oh! Dois-je voir là l'hommage à la beauté de cette journée? Ou bien à mes talents de chauffeur?
Je voudrais être une femme de 36 ans, en robe de satin noir, avec un rang de perles.
Vous ne seriez pas avec moi dans cette voiture si c'était le cas.
Monsieur de Winter, je suis sûre que vous allez me trouver impertinente et mal élevée, mais j'aimerais savoir pourquoi vous m'avez demandé de sortir avec vous en voiture jour après jour. C'est par gentillesse, cela ne fait aucun doute, mais pourquoi me choisir moi pour exercer votre charité?
Parce que vous ne portez pas de robe de satin noir avec un rang de perles et que vous n'avez pas 36 ans.
Vous savez tout de moi. Mais vous, je n'en sais pas plus sur vous que je n'en savais au moment de notre rencontre.
Et que saviez-vous donc?
Eh bien, que vous habitiez à Manderley et que vous aviez perdu votre femme. C'était sorti tout seul. Impossible de récupérer ces mots, impossible de les effacer. Je me souviens. J'ai gardé les yeux droit devant moi, sans rien voir de la route qui filait, les oreilles encore vibrantes de l'insanité que j'avais proférée. Le silence se changeait en minutes, et les minutes en kilomètres. Je me disais, tout est fini maintenant, je n'irai plus jamais en voiture avec lui. Demain, Madame Von Hopper sera guérie et il sera parti. Ce n'est qu'une fois la voiture arrêtée et garée au bord de la route que je revins à la réalité.
Mes souvenirs sont amers et je préfère les ignorer. Il y a un an, un événement a bouleversé le cours de ma vie. Je veux l'oublier, lui et tout ce qui l'a précédé. Cette époque est terminée, rayée de ma mémoire. Je veux tout recommencer.
Je suis désolée. Vous avez été si gentil pour moi, je n'avais pas l'intention
de
vous...
Au diable, vos petits discours puritains! Et votre façon de parler de gentillesse et de charité, je vous demande de venir avec moi parce que je vous veux près de moi et que j'aime votre compagnie. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez sortir de cette voiture sur le champ et vous débrouiller pour rentrer toute seule. Allez-y, ouvrez la porte et sortez. Alors, vous vous décidez ?
Reconduisez-moi, s'il vous plaît.
Vous auriez l'âge d'être ma fille et je ne sais pas m'y prendre avec vous. Oubliez tout ce que je viens de vous dire, tout ça est bel et bien fini. N'en reparlons plus jamais. Ma famille m'appelait Maxime, j'aimerais que vous en fassiez autant. Fini l'étiquette. Et promettez-moi de ne jamais porter de satin noir.
Que voulez-vous ?
Il est arrivé quelque chose ?
Je suis venue vous dire au revoir. Nous partons ce matin.
Fermez la porte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est la vérité. Nous partons aujourd'hui. J'ai eu peur de ne pas vous revoir. Pour vous remercier.
Pourquoi ne pas me l'avoir dit avant ?
Oh, Madame Von Hopper ne s'est décidée qu'hier soir. Tout cela s'est fait très vite. Sa fille embarque pour New York samedi prochain. Et nous l'accompagnons.
Elle vous emmène à New York ?
Oui. Je ne veux pas y aller. Ce sera horrible. Je vais être très malheureuse.
Alors, Madame Von Hopper en a assez de Monte Carlo et maintenant elle veut rentrer chez elle. Eh bien, moi aussi. Elle, à New York, moi, à Manderley. Qu'est-ce que vous préférez ? Choisissez.
Ne plaisantez pas avec ça, par pitié.
Si vous me croyez de ces types qui font de l'humour au petit déjeuner, vous vous trompez. Je suis toujours de mauvaise humeur le matin. Je vous le rappelle, vous avez le choix. Soit vous allez en Amérique avec Madame Von Hopper, soit vous rentrez à Manderley avec moi.
Vous voulez dire qu'il vous faut une secrétaire ou quelque chose comme ça ?
Mais non, petite sotte ! Je vous demande de m'épouser.
Je ne comprends pas. Je ne suis pas le genre de fille qu'on épouse.
Qu'entendez-vous par là ?
Je ne sais pas très bien. Je ne me crois pas capable d'expliquer cela. Je ne suis pas de votre monde.
Et c'est quoi, mon monde ?
Eh bien, Manderley, vous comprenez ce que je veux dire ?
Vous n'avez pas répondu à ma question. Voulez-vous m'épouser ? Ma suggestion ne semble guère avoir de succès. J'en suis navré. J'avais plutôt l'impression que vous m'aimiez.
Mais je vous aime. Je vous aime terriblement. J'ai pleuré toute la nuit en pensant que je ne vous reverrai jamais.
Eh bien voilà, c'est réglé. Au lieu de tenir compagnie à Madame Von Hopper, vous serez ma compagne. Et vos devoirs seront presque les mêmes. J'aime moi aussi les livres neufs et les fleurs dans le salon, et j'aime avoir quelqu'un qui me verse mon thé. La seule différence, c'est que je prends une autre marque de laxatif. Vous me trouvez brutal avec vous, n'est-ce pas ? Ce n'est pas là l'idée que vous vous faisiez d'une demande en mariage ? Allez, tant pis, je vous emmène à Venise pour notre lune de miel, et nous nous tiendrons la main dans une gondole. Mais nous n'y resterons pas longtemps, car je veux vous montrer Manderley.
Manderley ?
Est-ce moi qui annonce la bonne nouvelle à Madame Von Hopper, ou bien vous ?
Oh, non, je vous laisse faire. Elle va être dans une telle fureur.
Je m'en occupe. Attendez-moi ici.
quand il fut parti, j'explorai un peu sa chambre. Il y avait un livre sur la table de nuit. Je le ramassai. La page de garde portait une dédicace. Pour Max, signée Rebecca. D'une écriture bizarre, penchée. Le prénom Rebecca, libellé d'une encre trop abondante, ressortait, noir et fier, dont le grand R incliné écrasait presque le reste du prénom. Rebecca. Rebecca. Nous arrivâmes à Manderley début mai. Là, devant moi, s'élevait le Manderley que je m'étais imaginé. Une maison toute de grâce et de beauté, encore plus belle que dans mes rêves, bâtie dans son nid de douce verdure et de pelouse veloutée, avec ses terrasses descendant jusqu'au jardin et les jardins jusqu'à la mer. Alors que nous approchions du large perron en pierre, je remarquai que le hall était rempli de monde.
Ah, elle savait pertinemment que je ne voulais pas de ça.
Que se passe-t-il? Qui sont tous ces gens?
Tu n'y couperas pas. Madame Denvers a jugé bon de réunir tout le personnel pour nous souhaiter la bienvenue.
Un majordome attendait, debout sur les marches du perron. Un vieil homme à la mine bienveillante.
Nous voilà, Fierce. Tout le monde va bien?
Oui, merci, monsieur. Je suis heureux de revoir monsieur et j'espère que monsieur se porte bien. Ainsi que madame.
Oui, oui, nous allons bien. Merci, Fierce.
Merci.
Ce voyage en voiture nous a fatigués. Nous aimerions prendre notre thé. Oui, bonjour, Jasper. Je ne m'attendais pas à ce comité d'accueil.
Ce sont les ordres de madame Danvers, monsieur.
Ouais, j'aurais dû m'en douter. Allez, viens. Ce ne sera pas long. Ils sont tous très curieux de voir à quoi tu ressembles. Sois simplement toi-même et ils vont t'adorer. Je te présente madame Danvers.
Madame...
Je ne me souviens plus aujourd'hui de ses paroles, mais je sais qu'elle me souhaita la bienvenue à Manderley en son nom ainsi qu'au nom du personnel. Un discours raide et convenu, débité d'une voix aussi froide que sa poignée de main. Madame Danvers était une femme grande et décharnée, vêtue de noir, et dont les pommettes saillantes et les immenses yeux caves lui donnaient l'apparence d'un spectre d'une pâleur de parchemin posée sur un squelette. Son regard ne quittait jamais le mien. Elle me conduisit à ma chambre, située dans l'aile est de la maison.
Manderley est une très grande maison, madame. Le hall était autrefois la salle des banquets. On l'utilise encore dans les grandes occasions. Et puis, Manderley est ouvert au public une fois par mois.
On ne voit pas la mer d'ici?
Non, pas de cette aile-ci. On ne l'entend même pas. On ne croirait pas que la mer est si proche de ce côté.
C'est dommage. J'aime la mer.
Monsieur de Winter a expressément ordonné dans sa lettre de vous installer dans cette chambre.
Ah, ce n'était pas la sienne à l'origine?
Non, madame. C'est la première fois qu'il occupe les pièces de cette aile-ci.
Ah bon? Il ne m'en a rien dit. Je suppose que vous êtes à Manderley depuis de nombreuses années, madame Danvers.
Moins longtemps que Fierce. Je suis venue ici lorsque la première madame de Winter était jeune mariée.
Madame Danvers... Vous devrez vous montrer patiente. Ce genre de vie est nouveau pour moi. Vous n'avez qu'à continuer à gérer la maison comme elle l'a toujours été. Je ne chercherai pas à apporter le moindre changement.
Très bien. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour votre service?
Oh non, j'ai tout ce qu'il me faut. Merci, madame Danvers. Je serai très bien ici. Vous avez si joliment décoré cette chambre.
Je n'ai fait que suivre les instructions de monsieur de Winter. Ça n'a pas été facile à meubler. Monsieur de Winter a dit que vous préféreriez ce côté-ci. Les pièces de l'aile ouest sont plus anciennes. La chambre à coucher fait deux fois la taille de celle-ci. C'est la plus belle pièce de la maison. Les fenêtres donnent sur les pelouses et plus loin, sur la mer.
Je suppose que monsieur de Winter réserve les plus belles chambres pour les visites publiques.
On ne montre jamais les chambres au public. Seulement le grand hall et la galerie des musiciens et les pièces du bas. Monsieur et madame habitaient l'aile ouest du vivant de madame de Winter. Cette grande chambre dont je vous parle, celle qui donne sur la mer, était la chambre de madame de Winter.
Demain matin, un épais brouillard pénétrait par la fenêtre ouverte. Lorsque je descendis pour le petit déjeuner, Maxime était déjà sorti.
Monsieur de Winter m'a chargé de dire à madame qu'il est sorti avec monsieur Crowley. Monsieur Frank Crowley est un ami de monsieur de Winter. C'est le régisseur du domaine. Monsieur de Winter me fait dire qu'ils seront de retour pour le déjeuner à 1 heure.
Merci. Oh, Fierce!
Oui, madame.
Il fait un peu froid ce matin. Peut-être auriez-vous l'amabilité d'allumer le feu dans la bibliothèque?
En général, madame, on allume le feu dans la bibliothèque que dans l'après-midi. Madame de Winter allait toujours dans le petit salon. Le matin, elle y faisait son courrier et y donnait ses appels téléphoniques après le petit déjeuner. Mais si madame désire un feu dans la bibliothèque, j'ordonnerai qu'on l'y allume.
Oh non, pas question. J'irai dans le petit salon. Merci, Fierce. C'était un salon très féminin, gracieux, délicat, portant la marque d'une personne qui avait choisi chaque objet avec un soin minutieux, de sorte que le moindre bibelot, le moindre fauteuil s'harmonise avec l'ensemble et avec la personnalité de son propriétaire. M'installant devant le bureau, j'ouvris un tiroir au hasard et reconnus, en feuilletant un carnet en cuir intitulé « Invité à Manderley », la même écriture oblique et ce grand R dans la correspondance de madame de Winter. Qui est à l'appareil? Qui demandez-vous?
Madame de Winter. Madame de Winter.
Je crains que vous ne fassiez erreur. Madame de Winter est décédée depuis plus d'un an.
Ici madame Danvers, madame. Je vous appelle par la ligne interne.
Excusez-moi, madame Danvers. La sonnerie m'a surprise. Je n'avais pas compris que cet appel était pour moi.
Navré de vous avoir dérangée, madame. Je me demandais si les menus de la journée vous convenaient. Vous les trouverez sur le sous-main, à côté de vous.
Oui. Oui, madame Danvers, c'est très bien. Parfait.
J'ai laissé un blanc à côté du mot « sauce ». Madame de Winter était très exigeante pour les sauces. Je devais toujours lui demander son avis.
Ah. Eh bien, je ne saurais dire.
J'ai tendance à penser que madame de Winter aurait choisi une sauce au vin, madame.
Ce sera la même dans ce cas.
Je vous demande pardon de vous avoir dérangée pendant votre courrier, madame.
Après le déjeuner, il pleuvait toujours. Frank Crowley et Maxime travaillaient dans la bibliothèque. Je pris un imperméable dans la véranda et me mis à traverser le jardin pour me rendre à la mer. Je me trouvais bientôt dans le bois. Jasper courait devant moi. Le bois descendait jusqu'au bord de l'eau. À la lisière se trouvait un bâtiment long et bas qui tenait à la fois du hangar à bateaux et du cottage. Il y avait une bouée ancrée là, dans la crique, mais aucun bateau. Jasper était là, remuant la queue devant une silhouette solitaire debout sur la plage. M'étant rapproché, je vis qu'il s'agissait d'un homme qui avait les petits yeux fendus, la bouche toute rouge et mouillée, et le sourire d'un simple d'esprit.
Sale ton, hein?
Eh oui, il ne fait pas très beau, je le crains. Jasper! Jasper, viens ici!
Cherche des coquillages. Pas de coquillage ici. Cherchez toute la journée.
Je suis navrée que vous n'en ayez pas trouvé.
Ah oui, pas de coquillage ici.
Jasper, il est tard. Viens là, bon chien.
Il n'est pas à vous.
Hein? Ah, c'est le chien de monsieur de Winter. Je voudrais le ramener à la maison. Allez, viens maintenant.
Vous n'êtes pas comme l'autre.
De qui parlez-vous? Quel autre?
La nuit, elle venait à la crique. Je l'ai vue. Je l'ai regardée une fois à l'intérieur, et elle s'est retournée. Si je te prends encore à me regarder par la fenêtre, je te mettrai à l'asile, elle a dit. Je dirai rien, madame. J'ai dit, et j'ai mis la main à ma casquette comme ça. Elle est partie dans la mer, pas vrai. Elle reviendra plus.
Non, elle ne reviendra pas.
Vous me ferez pas mettre à l'asile, vous, dites. J'ai jamais rien dit. Hein ? Jamais rien dit. J'ai jamais rien dit. J'ai jamais rien dit.
Où as-tu trouvé ce bout de ficelle ?
Dans le cottage, sur la plage. C'était pour attacher le chien et il ne tenait pas en place.
Ah, je vois. C'est Ben qui t'a dit que la porte était ouverte ?
Ben ?
Aucune importance.
Maxime !
Quoi encore ?
Pardon, mon chéri, je suis désolée d'être allée à la crique alors que tu ne voulais pas.
Moi, je n'y vais jamais à cette crique. Et si tu avais les mêmes souvenirs que moi, tu ne voudrais pas y aller non plus, ni en parler, ni même y penser. Voilà, j'espère que tu es contente maintenant.
Maxime, je t'en prie, s'il te plaît.
Qu'y a-t-il ?
Je ne veux pas que tu te mettes dans cet état-là, cela me fait trop de mal. Je t'en prie, Maxime. Je suis désolée, s'il te plaît, tournons la page.
Nous aurions dû rester en Italie. Nous n'aurions jamais dû rentrer à Manderley. Quel imbécile j'ai été de revenir.
Ce mois de mai fut pluvieux et froid. De la terrasse, j'entendais le murmure des vagues en contrebas, sourd et lugubre. Et chaque matin, un épais brouillard nous parvenait de la mer. Je n'arrivais pas à oublier ce cottage sur la plage, non plus que le regard vide et perdu de Maxime. Et au fond de mon esprit, avait germé une curiosité, d'abord timide et furtive, qui se mit à croître lentement et sûrement. Frank Crowley prenait le thé avec moi dans la bibliothèque, attendant le retour de Maxime. Il fallait absolument que je sois fixée sur certaines choses.
Ben est un brave type. Vous n'avez pas à avoir peur de lui, il ne ferait pas de mal à une mouche.
Je n'ai pas peur. Ce cottage est en train de se délabrer. J'ai dû y entrer, chercher de la ficelle pour attacher Jasper. Pourquoi ne fait-on rien ? C'est dommage.
Si Maxime voulait qu'on fasse quelque chose, il me le dirait.
Toutes ces affaires étaient à Rebecca ?
Oui.
Je me demandais, pourquoi y a-t-il une bouée sur ce ponton ?
Le bateau y était amarré.
Quel bateau ?
Le sien.
Que lui est-il arrivé ? C'est sur ce bateau qu'elle se trouvait quand elle s'est noyée ?
Oui. Il a chaviré et il a coulé. Elle est passée par-dessus bord.
Et personne ne pouvait venir à son secours ?
Personne n'a vu l'accident. Personne ne savait qu'elle était sortie en mer. Il lui arrivait souvent de prendre son bateau seul la nuit.
Elle n'avait pas peur ?
Peur ? Non, elle n'avait peur de rien.
Combien de temps après l'a-t-on retrouvée ?
Environ 2 mois.
Où ça ?
Près d'Edgecombe, à 40 miles d'ici, en remontant le chenal.
Et comment pouvait-on savoir que c'était elle au bout de 2 mois ? Comment a-t-on pu la reconnaître ?
Maxime est allé à Edgecombe pour l'identifier.
Franck, je sais ce que vous vous dites, vous ne comprenez pas pourquoi je vous pose toutes ces questions. Vous me trouvez d'une curiosité morbide, ce n'est pourtant pas le cas, je vous assure. Seulement, lorsque je rends visite à tous ces gens, ces amis, je me rends bien compte qu'ils me toisent en pensant qu'est-ce que Maxime peut bien lui trouver. C'est automatique. Chaque fois que je rencontre quelqu'un pour la première fois, je sais qu'il se dit, c'est fou ce qu'elle est différente de Rebecca. Non,
Madame de Winter, je vous en prie, n'en croyez rien. Pour ma part, je suis ravi que vous ayez épousé Maxime. Je n'ai jamais entendu un mot de travers sur vous, et je veillerai à ce que ça n'arrive pas.
C'est très gentil à vous, Franck. Je ne suis pas douée pour les mondanités, et je n'arrête pas de penser à ce bal costumé qui va être donné en mon honneur. Mais
ce bal vous plaira, vous verrez. C'est un très beau spectacle. Manderley, en fait. et je suis convaincu que vous vous débrouillerez parfaitement bien.
Merci, vous êtes un ange. Franck, une dernière question. Voulez-vous me promettre de répondre en toute sincérité ?
Mais je ferai de mon mieux.
Dites-moi, est-ce que Rebecca était très belle ?
Oui. Oui, c'était sans doute la plus belle créature que j'ai vue de ma vie.
Quelque chose ne va pas, madame ?
Si, si, madame Danvers. Je ne m'attendais pas à vous voir.
Vous vouliez voir cette chambre ? Pourquoi ne m'avoir pas demandé ? Je sais que vous en rêviez depuis longtemps. C'est une jolie chambre, n'est-ce pas ? La plus jolie que vous ayez jamais vue. C'était son lit. Un lit magnifique, n'est-ce pas ? Et voilà sa chemise de nuit. C'est celle qu'elle a portée avant de mourir. Vous voulez la toucher ? Tenez, caressez-la. Je me chargeais de tout pour elle, vous savez. Je ne veux personne d'autre que toi, Danny, elle disait. Vous voudriez voir ses toilettes, n'est-ce pas ?
Je ne sais pas.
Je crois que Monsieur de Winter aimait surtout l'avoir portée des tenues argentées. Mais bien entendu, toutes les couleurs lui allaient. Elle était magnifique dans cette robe de velours. Touchée, comme il est doux. Il porte encore son odeur, comme si elle venait juste de la retirer. Là, dans ce tiroir, ce sont ses dessous. Cet ensemble rose, elle ne l'a jamais porté. Elle était en chemise et en pantalon quand elle est morte. Ses vêtements ont été arrachés par la mer. Elle était nue quand le corps a été retrouvé.
C'est terrible.
Vous comprenez maintenant pourquoi Monsieur de Winter ne se sert plus des pièces de cette Elsie. Écoutez la mer. Il n'a plus habité ces pièces depuis la nuit où elle s'est noyée. Je suis la seule à franchir ces portes. Je fais la poussière moi-même, tous les jours. Si vous désirez revenir, il vous suffira de me demander. Appelez-moi par la ligne interne. C'était une si belle chambre. On ne croirait pas qu'elle est partie depuis aussi longtemps, n'est-ce pas ? Parfois, quand je remonte le couloir, je crois l'entendre juste derrière moi. Je sens sa présence partout. Vous pensez qu'elle nous voit, en ce moment, en train de discuter ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Je me demande si elle revient ici, à Manderley, et si elle vous observe, vous et Monsieur de Winter.
Nous nous tenions près de la porte. Je n'arrivais pas à détacher mes yeux des siens. Comme ils étaient sombres et malveillants, pleins de haine. Soudain, elle ouvrit la porte donnant sur le couloir.
Alors, vous n'avez pas encore décidé de ce que vous allez mettre pour le bal ?
Non. Non, je n'ai pas décidé.
Monsieur de Winter ne vous a donc pas suggéré de costume ?
Non, je veux lui faire la surprise.
Pourquoi ne pas vous inspirer d'un des tableaux de la galerie ? Il ferait de bons déguisements. Surtout celui de la jeune femme en blanc, avec son chapeau à la main.
Je m'en souviendrai. Merci, madame Danvers. La maison commença à présenter un air de fébrilité. Des hommes vinrent poser le plancher de danse dans le grand hall. Il y avait des ouvriers partout dans le domaine. C'est à peine si je n'attendais pas le bal avec impatience désormais.
Tu ne vas pas te déguiser en clown quand même. Rien d'humoristique, j'espère.
Non, rien de ce genre. Tu verras, tu ne me reconnaîtras pas.
Ah, tu aurais pourtant fait une parfaite Alice au Pays des Merveilles.
Le bal était donné en mon honneur.
C'était nouveau et inattendu ce sentiment d'importance que j'éprouvais soudainement. L'ancienne austérité avait disparu. Manderley avait pris vie d'une manière que je n'aurais pas cru possible, comme si la maison se rappelait une autre époque, une époque très lointaine. Maxime était en bas dans le hall, en compagnie de sa sœur et de son beau-frère, ainsi que de Frank Crowley. Les musiciens s'étaient installés et avaient déjà pris place dans la galerie.
Mais je ne sais pas ce qu'elle fabrique, ça fait un temps fou qu'elle est dans sa chambre. Les invités vont arriver d'un instant à l'autre.
Demandez à la percussion de m'annoncer un roulement de tambour, vous savez comment on fait. Je veux lui faire la surprise. Je m'avançais vers le haut de l'escalier et demeurais là, souriante, ma robe blanche aux manches bouffantes, la grande capeline à la main comme la femme du tableau. Je guettais les applaudissements et les rires qui suivraient lorsque je descendrais lentement l'escalier. Personne n'applaudit. Personne ne bougea. Tous me dévisageaient comme pétrifiés. Maxime n'avait pas bougé. Il me fixait du regard, son verre à la main. Il était livide. Il se dirigea vers l'escalier.
Bon Dieu ! Mais à quoi tu joues ? Va te changer. Trouve une robe du soir, n'importe laquelle, ça ira. Vite ! Avant que quelqu'un n'arrive. Tu as entendu ce que je t'ai dit ?
Destiny, le beau Danube bleu, la veuve joyeuse. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tournez, tournez, 1, 2, 3, 1, 2, 3. L'orchestre jouait et les couples tournoyants se balançaient comme des marionnettes au bout de leur fil. La silhouette qui se tenait à côté de moi était en bois, elle aussi. Son visage était un masque, son sourire n'était pas le sien. Maxime ne m'adressa pas la parole une seule fois de la soirée. Nous nous tenions côte à côte, le maître et la maîtresse de maison, et nous n'étions pas ensemble. Nous étions comme deux acteurs dans une pièce de théâtre, nous livrant à cette misérable imposture par égard pour tous ces gens que je ne connaissais pas, mais nous étions séparés. Nous ne jouions pas ensemble. Vous avez eu ce que vous vouliez, n'est-ce pas? C'était ce que vous cherchiez, vous êtes contente maintenant?
Pourquoi êtes-vous venue ici? Personne ne voulait de vous à Manderley.
Qu'ai-je bien pu faire pour que vous me haïssiez à ce point?
Vous avez essayé de prendre la place de Madame de Winter.
C'est vous qui m'avez fait porter ce déguisement hier soir. C'était celui qu'avait choisi Rebecca au dernier bal de Manderley. Le même tableau, la même robe.
Peine perdue, n'est-ce pas? Vous n'aurez jamais le dessus sur elle. Même morte, c'est toujours elle, la maîtresse, ici. C'est elle, la vraie Madame de Winter, pas vous. Vous êtes l'ombre, le fantôme. C'est vous qu'on rejette, qu'on oublie, qu'on repousse. Pourquoi ne pas laisser Manderley à sa vraie propriétaire? Pourquoi ne pas vous en aller?
Je ne veux pas en entendre davantage, Madame Danvers.
Pourquoi ne pas partir? Il ne veut pas de vous. Il n'a jamais voulu de vous. Il n'arrive pas à l'oublier. Elle, c'est vous qui devriez être étendue là-bas dans la crypte, pas elle. C'est vous qui devriez être morte, pas Madame de Winter. Regardez, ce serait facile, non?
Lâchez-moi!
N'ayez pas peur, je ne vous pousserai pas. Vous pouvez sauter vous-même. À quoi bon rester à Manderley? Vous n'êtes pas heureuse. Monsieur de Winter ne vous aime pas. Vous n'avez rien à perdre. Pourquoi ne pas sauter maintenant et en finir une bonne fois pour toutes? Vous ne serez plus malheureuse. Pourquoi ne pas essayer? Allez-y. Allez-y. N'ayez pas peur. Allez. Allez.
Madame Denver s'était venue derrière moi, toute proche, sa main serrant mon bras comme un étau. J'apercevais la terrasse en contrebas, grise et indistincte dans la blancheur du brouillard. Il emplissait la fenêtre ouverte, Humide et moite, il me piquait les yeux. Mes mains s'agrippaient au rebord de la fenêtre.
Allez-y.
Sautez ! Je fermais les yeux. La tête me tournait et mes doigts me faisaient mal. La brume, aigre et fétide, pénétrait dans mes narines et se déposait sur mes lèvres. Elle était étouffante comme un anesthésique. Je commençais à oublier à quel point j'aimais Maxime. Je commençais à oublier Rebecca. Je n'aurais bientôt plus à penser à Rebecca. Soudain, la brume et le silence furent déchirés par un éclair qui traversa le ciel. J'ouvris les yeux.
Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?
Des fusées. Un bateau a dû s'échouer dans la baie.
Je descendis sur la plage. Le brouillard s'était presque entièrement dissipé. Je vis, sur le récif, un grand navire à un demi-mille de la côte, la proue tournée vers les falaises. Il était entouré de plusieurs petits bateaux, dont, auprès de lui, la vedette des gardes-côtes.
Échangez-le ! Plus bas ! Doucement ! Mais plus bas !
Ça m'a l'air d'un bateau hollandais ou allemand.
Si cela s'était produit hier soir, nous n'aurions rien entendu.
Nous aurions vu les éclairs et su d'où ils venaient. Heureusement que la marée n'est pas forte.
Bien voilà le plongeur. Il est venu de Kéris.
Il va descendre voir si la coque du bateau est brisée.
Le récif est traître. Il n'y a quasiment pas de fond. Il est perdu.
Franck ? Franck, avez-vous vu Maxime ?
Il a été un des premiers à arriver. Il s'est porté au secours des rescapés.
Il a été formidable.
Où est-il maintenant ?
Il est parti pour Kéris, il y a 10 minutes, avec un homme de l'équipage sinistré.
Merci, Franck. Au revoir, messieurs.
Au revoir, madame.
Je retournais à Manderley en prenant par les bois. Entre les arbres, je discernais encore le bateau échoué. Le plongeur devait être remonté, car je vis un petit groupe de personnes sur le pont de la Vedette amarré le long de la coque. Penchée au-dessus de l'eau, elle la regardait fixement. Je repris mon chemin à travers bois. Mes jambes pesaient, j'avais la tête lourde et au cœur un étrange pressentiment.
Le capitaine Searle attend, madame. Il dit que c'est important. Il a d'abord demandé monsieur de Winter. Il est dans la bibliothèque.
Qui est-ce, Pierce ?
Le capitaine du port de Kéris, madame. Ah.
Madame de Winter.
Je regrette, mais mon mari n'est pas encore rentré.
Je sais. Je n'arrive pas à joindre Monsieur Crowley non plus. Il se trouve que j'ai une nouvelle pour Monsieur de Winter et je ne sais pas trop comment lui annoncer.
Quel genre de nouvelle, capitaine ?
Eh bien, Madame de Winter, cela ne m'est guère agréable de vous en parler, à vous aussi. Nous aimons tous beaucoup Monsieur de Winter par ici. C'est difficile pour lui comme pour vous de devoir être obligé de remuer le passé.
Je ne comprends pas.
Nous avons envoyé le plongeur inspecter la coque du navire et pendant qu'il était sous l'eau, il a trouvé quelque chose d'autre. Il est tombé sur la coque d'un petit voilier couché sur le flanc en parfait état. Et il l'a reconnu tout de suite. C'était le petit voilier de feu, Madame de Winter.
Oh. C'est affreux, mais est-il bien nécessaire d'en informer Monsieur de Winter ? Ne pourrait-on pas laisser ce bateau là où il est ? Il ne gêne personne, n'est-ce pas ?
Ce n'est pas tout, madame. Le plongeur a examiné le petit voilier et il a fait une autre découverte. La porte de la cabine était hermétiquement fermée, ainsi que les hublots. Il en a cassé un avec une pierre et il a regardé à l'intérieur. Il a eu la frayeur de sa vie. Un cadavre flottait dans la cabine. Maintenant, vous comprenez pourquoi il faut que je voie votre mari, Madame de Winter.
Tout est fini maintenant. C'est arrivé.
Quoi donc ?
Ce que j'ai toujours prévu et redouté jour après jour, nuit après nuit. Nous ne sommes pas faits pour être heureux, toi et moi.
Qu'est-ce que tu cherches à me dire ?
Rebecca a gagné. Je me rappelle le regard qu'elle m'a lancé juste avant de mourir et ce sourire doucereux, perfide. Elle savait déjà ce qui allait se passer. Elle savait qu'elle finirait par gagner.
Maxime, qu'est-ce que tu racontes ?
Son bateau, on l'a retrouvé. Le plongeur l'a trouvé cet après-midi.
Je sais. Le capitaine Searle est venu ici. Il m'a averti. Tu penses au corps que le plongeur a trouvé dans la cabine ?
Oui.
Cela signifie qu'il y avait quelqu'un d'autre sur le bateau avec elle ? Et tu veux savoir qui c'était ?
Il n'y avait personne avec Rebecca, elle était seule. C'est le cadavre de Rebecca qui gît là-bas, sur le sol de la cabine.
Non, non !
La femme que j'ai identifiée et qui est enterrée dans la crypte n'est pas Rebecca. Il n'y a jamais eu d'accident. Rebecca ne s'est pas noyée, c'est moi qui l'ai tuée. J'ai tiré sur elle dans le cottage de la crique. J'ai transporté son corps dans la cabine. J'ai pris le bateau et je l'ai coulé là où ils l'ont retrouvé aujourd'hui. C'est Rebecca qui gît là, sur le sol de la cabine. Peux-tu me regarder dans les yeux et me dire que tu m'aimes à présent ?
Nous ne pouvons plus nous perdre, toi et moi. Il faut que nous restions toujours ensemble, sans aucun secret ni aucune ombre entre nous. Je t'en prie, mon chéri, je t'en prie.
Nous n'avons plus le temps. Il nous reste quelques heures, peut-être quelques jours. Comment veux-tu que nous soyons unis après ce qui s'est passé aujourd'hui ? Ils ont trouvé Rebecca.
Que vas-tu faire ?
Je ne sais pas, je n'en sais rien.
Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant ?
Non.
Seulement toi et moi.
Seulement toi et moi.
Pourquoi ne m'en avoir jamais parlé ? Pourquoi ? Tout ce temps perdu alors que nous aurions dû être si proches.
Tu étais si distante. Tu ne venais jamais vers moi comme tu le fais maintenant. Tu avais une attitude bizarre avec moi, gênée, timide.
Chaque fois que tu me touchais, à chaque mot, à chaque regard que tu m'adressais, il me semblait que tu me comparais à Rebecca.
Tu penses que j'aimais Rebecca ? Tu penses que je l'ai tuée alors que je l'aimais ? Je la haïssais, crois-moi. Notre mariage n'était qu'une mascarade depuis le début. Elle était perverse, odieuse, pourrie de vice jusqu'à la moelle. Nous ne nous sommes jamais aimés, nous n'avons jamais connu un seul moment de bonheur ensemble. Rebecca était incapable d'amour, de tendresse, de pudeur. J'ai compris sa vraie nature. 5 jours après notre mariage, quand elle m'a dit la vérité sur elle, j'ai compris alors qui j'avais épousé. Elle avait gardé un appartement à Londres et y fonçait en voiture dès qu'elle pouvait. Revenant ici après plusieurs jours d'ignominie. Ce qu'elle faisait là-bas ne m'affectait pas parce que cela n'atteignait pas Manderley. J'acceptais tout à cause de Manderley. Et puis, peu à peu, elle a fait de moins en moins attention et a commencé à inviter ses amis ici, au cottage de la plage. Ah, je ne veux pas repenser à ces années-là, je ne veux même pas te les raconter. La honte et l'humiliation, le mensonge et la farce sordide que nous jouions ensemble. Et puis, un matin, elle est allée à Londres et elle est revenue le jour même, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Cette nuit-là, j'ai vu la lumière à la fenêtre du cottage et je suis entré sans m'annoncer. À mon grand étonnement, elle était seule. Elle m'a dit, avec un sourire narquois, « Si j'avais un enfant, personne ne pourrait prouver qu'il n'est pas de toi. Il grandirait ici, à Manderley, il porterait ton nom. » Et à ta mort, Manderley lui reviendrait. Tu n'y pourrais rien. » Elle s'est mise à rire. « Je ferais une mère parfaite, Max, comme j'ai fait une épouse parfaite. Personne n'aurait jamais le moindre doute. » Elle s'est retournée vers moi en souriant et je l'ai tuée. J'ai visé au cœur. Elle n'est pas tombée tout de suite. Elle est restée là à me regarder avec ce sourire doucereux. Les yeux grands ouverts.
Monsieur Tab, le constructeur de bateaux de Kéris, avait terminé sa déposition. C'était presque fini. Il ne restait plus qu'un témoin. Il faisait une chaleur étouffante. Il y avait là quantité de gens dont j'ignorais l'identité, mais je reconnus Madame Danvers assise au fond, les yeux rivés sur le coroner.
Messieurs les jurés, nous allons entendre maintenant le dernier témoin dans cette affaire, le docteur Baker, dont nous avons trouvé le nom et le numéro de téléphone dans l'agenda de feu Madame de Winter. Docteur Baker, il semble que Madame de Winter ait eu un rendez-vous avec vous à 2 heures de l'après-midi, le dernier jour qu'elle a passé à Londres. Pouvez-vous nous le confirmer ?
Oui.
Et à votre avis ? Aurait-elle eu une raison d'attenter à ses jours ?
Je pense que oui. Madame de Winter était très gravement malade. Elle était venue me voir une première fois, une semaine avant la date que vous me citez. Elle se plaignait de certains symptômes et je lui ai fait des radios. Sa deuxième visite concernait les résultats. Je la revois debout dans mon cabinet en train de tendre la main pour les inspecter. Elle m'a dit, je ne veux pas qu'on me ménage ni qu'on me rassure. Si je suis foutu, vous pouvez me l'annoncer franchement. Donc elle a réclamé la vérité, je la lui ai avouée. Elle a dit qu'elle s'en doutait depuis un certain temps. Là-dessus, elle m'a réglé mes honoraires et elle est partie. La douleur n'était pas encore trop forte, mais la tumeur était agressive et avant 3 ou 4 mois, elle aurait été sous morphine. Extérieurement, bien sûr, c'était une femme en parfaite santé, assez pâle, un peu trop maigre, je me souviens, mais après tout, aujourd'hui, c'est la mode, si déplorable soit-elle. Ce n'était pas un critère chez un patient, les radios montraient une certaine malformation de l'utérus, je me souviens. Elle n'aurait jamais pu avoir d'enfant, mais c'est indépendant, cela n'avait rien à voir avec la maladie.
Verdict de l'affaire Madame de Winter. Le jury a conclu au suicide. L'audience est levée.
Presque nuit noire lorsque nous reprîmes la route de Manderley. Maxime tenait ma main dans la sienne. Nous restâmes longtemps silencieux. Je devais m'être assoupie car je m'éveillais en sursaut et entendis le premier coup de tonnerre. L'air chaud frappait mon visage. Il ne pleuvait pas.
Nadine, qu'est-ce qui se passe ?
Maxime ! Ralentis !
J'aimerais rentrer vite, je suis inquiet. Tout à l'heure, quand nous avons fait une halte pour dîner, j'ai téléphoné à Frank Crowley pour lui annoncer le verdict. Il pense que Madame Danvers a filé. Elle est rentrée dans la soirée, puis s'est envolée sans rien dire à personne. Ils l'ont cherchée partout en vain. Il pense qu'elle est partie. J'ai comme le sentiment qu'il faut rentrer au plus vite. Il y a quelque chose d'anormal. Je veux rentrer.
Il aurait fallu la renvoyer de toute façon.
Je n'aime pas ça.
Quelle heure as-tu dit qu'il était ?
Minuit 20.
C'est bizarre. On croirait que l'aube se lève là-bas, derrière ces collines. Mais c'est impossible, il est trop tôt.
Et puis ce n'est pas là, tu regardes vers l'ouest.
C'est en hiver, non, qu'on voit des aurores boréales ? Pas en été.
Ce n'est pas une aurore boréale, c'est Manderley !
Maxime ! Maxime, que se passe-t-il ? Regarde ! Un incendie ! Les cendres arrivent jusqu'à nous ! Maxime ! C'est Manderley ! Manderley est en feu ! Nous ne reviendrons jamais à Manderley. Le passé est trop près de nous. Parfois, en rêve, je retourne à Manderley et je revois la maison. Sa pierre grise luisant sous la clarté de la lune. Les fenêtres sont éclairées, les rideaux flottent légèrement dans l'air du soir. Et là, dans la bibliothèque, la porte est entrouverte comme si nous l'avions laissée ainsi. Mon mouchoir traîne sur la table, non loin du vase de roses d'automne. Et les braises mourantes dans notre cheminée rougeoient encore, malgré l'approche du matin.
Rebecca, de Daphné du Maurier. Texte original de l'émission d'Orson Welles, adapté par Howard Cook. Traduit de l'américain par Sophie Brissot et publié aux éditions Phonurgia Nova. Enregistré en public au studio 104 de la Maison de la Radio le samedi 8 octobre 2016. Elle, Mélissa Barbeau, Madame Van Hopper, Edith Scobb, Maxime de Winter, Emmanuel Salinger, Fierce, Maurice Anthony, Madame Denvers, Dominique Raymond, Ben, Stéphane Valency, Franck Crowley, Laurent Dolz, Capitaine Searle, Jean-Claude Durand, le coroner, Christian Cloarec, Docteur Becker, Dominique Daguet, et les voix d'Aurélien Osinski et Norbert Ferrer. Bruitage, Elodie Fiat. Avec l'Orchestre National de France. Musique originale et direction d'orchestre, Didier Benetti. Assistante à la réalisation, Lise-Marie Barré. Réalisation, Cédric Ossire.